106.9 Mauricie, commentaire.
La Mauricie se lève.
Voici Paul Vermeau-Desroches.
Salut Paul.
Salut Catherine.
Paul, peut-être que le nom de Ghislain Lachance ne dit pas grand-chose aux gens qui nous écoutent, parce que c'est ça, c'est un homme discret, c'est pas un homme qui prenait la parole, c'est pas un homme qui était dans les médias, mais c'est un homme qui a travaillé pour la ville de Trois-Rivières pendant de nombreuses années. Tu nous le présentes, donc 17 ans comme ingénieur municipal dans l'ancienne ville de Saint-Louis-de-France et directeur des travaux publics, directeur adjoint de la ville fusionnée de Trois-Rivières. Alors, c'est un homme qui a une vaste expérience, là.
Une vaste expérience, puis la ville lui doit beaucoup aussi. Je veux dire, Catherine, moi, j'ai couvert pendant 8 ans les affaires municipales avant d'être à la chronique depuis 1 an maintenant.
Ouais.
Et je dormais des fois presque à l'hôtel de ville.
Mais c'est
des gens que j'ai côtoyés au quotidien et je peux te dire franchement que la ville de Trois-Rivières doit beaucoup à Ghislain Lachance. C'est un homme, et oui, tu l'as dit, discret, de peu de mots. Les gens ne le connaissaient pas nécessairement, mais il a joué un rôle immense à la ville de Trois-Rivières depuis la fusion, puis même avant, évidemment, à la ville de Saint-Louis-de-France.
Mm-hmm.
Mais depuis la fusion, on lui doit énormément au niveau du service des travaux publics. Et j'avais demandé à le rencontrer, sachant qu'il prenait sa retraite. Je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller avec cette entrevue-là, est-ce que ça allait être un petit hommage? Et là, il a profité de cette rencontre-là pour faire une espèce de plaidoyer, finalement, en faveur des changements de comportement, parce que le service des travaux publics, ils sont vraiment au cœur de ce qui se passe sur le terrain, la ville, et ils sont à même de constater présentement l'impact direct des changements climatiques. Tu sais, toi puis moi, Catherine, peut-être que dans notre quotidien, les changements climatiques, présentement, ça veut pas dire grand-chose. On sait que la calotte polaire est en train de fondre.
Ouais.
On sait qu'il y a des incendies de forêt à droite, à gauche, mais ça nous touche peut-être pas dans notre quotidien, mais je t'annonce que ça nous touche dans notre quotidien, puis ça, le service des travaux publics est capable de le voir.
Ouais, absolument. Et tu l'écris bien ce matin, parce qu'en 17 ans de service à Saint-Louis-de-France, M. Lachance raconte que, bon, il y avait eu quoi, 2-3 reprises, une situation de mesure d'urgence, mais juste dans les 2 dernières années à Trois-Rivières, ça a dépassé ce nombre-là. Écoute, on pense juste à ce qui nous est arrivé, les inondations. L'année passée, en juin, ces pluies diluviennes. Bon, on n'avait jamais vu ça en 100 ans, mais il reste que l'impact actuellement, il se fait sentir. Alors, pour des gens comme ça qui travaillent aux travaux publics, ça donne de la job, comme on dit, là.
Ça donne la job parce que le système municipal a été pensé en fonction des capacités environnementales. Je te donne un exemple.
Oui.
Mettons, il y a 20 ans, quand on a décidé de refaire une canalisation dans une rue, on a calculé la capacité de la canalisation en fonction de la pire pluie qu'on avait connue dans les 10 années précédentes.
Mm-hmm.
Donc, ça fait juste 20 ans, mettons, que cette canalisation-là a été faite. Elle n'est pas désuète, là. Elle est encore bonne pour au moins 50 ans.
Oui.
Mais elle n'est plus capable d'absorber le nombre de pluie, de quantité de pluie, par exemple, qui tombe dans une année parce que ça a trop augmenté. Donc, c'est ce qui fait que des fois, on se retrouve avec, exemple, le boulevard des Récollets qui déborde.
Oui.
Exemple, le fleuve, présentement, qui, en 2 ans, a inondé 2 fois là, les terrasses, le parc des terrasses du fleuve à Trois-Rivières-Ouest. C'est des petits exemples comme ça qui font qu'à un moment donné, on se rend compte, OK, oui, ça a un impact. Et Ghislain Lachance, lui, ce qu'il dit, c'est que le grand défi des élus à venir, de l'actuel conseil municipal et de ceux qui vont venir, ça va être de convaincre les gens de changer leurs habitudes de vie et de façon drastique.
Oui.
Parce que on a plus 60 ans devant nous là pour éviter de limiter la hausse des changements climatiques. On l'a vu dernièrement à la COP26, on le sait. Ce qui va se passer dans les 10 prochaines années va être garant de ce qui va se passer pour les 50 années à venir, finalement. Donc, Ghislain me faisait remarquer, il dit, tu parlais de la pluie du 8 juin dernier, on se rappelle de cet orage-là.
Ben,
en tout cas, chez nous, ça a fait pas mal de dégâts, je peux te le dire.
Ben, je peux t'en parler. Moi, mon condo, c'est mon condo que je possède, a été inondé là, en partie. Fait que,
on s'en souvient
très bien.
Ben oui. Ben moi j'habite dans un quartier où il y a des arbres à peu près centenaires partout, puis il y en a 1 sur 3 qui a été complètement détruit, et c'était terrible. Et il disait bon évidemment ils ont été en mesure d'urgence ce soir-là, puis il dit après ça quand j'ai eu terminé, bon je reviens à la maison tranquillement et il y avait 1 maison sur 3 où les citoyens étaient en train d'arroser leur entrée pour nettoyer puis arroser leur gazon. Mais on venait d'avoir une pluie centenaire, là, tu sais. Fait qu'il dit, c'est dur de changer les habitudes des gens. C'est très difficile et ça va être un énorme défi pour lequel il va falloir prendre conscience que chaque petit geste qu'on pose, est important. Le jour où on décide de sortir notre boyau d'arrosage plutôt que de sortir le balai, ça a un impact. Le jour où on décide de s'acheter un véhicule puis qu'on continue d'aller vers le véhicule à essence, ça a un impact aussi. Donc, la ville, tu sais, puis il dit la ville, on parle souvent de la ville comme étant une entité, là. Qu'est-ce que la ville fait? Mais la ville, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est chaque geste qu'on pose aussi qui a un impact sur les services qu'on rend.
Exactement. Alors, une entrevue bien intéressante et même, tu sais, vous abordez un petit peu la pénurie de main-d'œuvre. On a tendance à penser que dans les villes comme ça, aux travaux publics, parce que c'est quand même beaucoup de monde qui y travaille, mais même pour des endroits comme ça, on a de la misère à recruter, à garder notre monde. C'est une réalité maintenant pour les villes, les municipalités aussi, là.
Tout à fait. Puis la réalité est que aussi les travaux publics, tu sais, c'est un service essentiel. Et c'est pas du 9 à 5. Là. On s'entend quand il commence à tomber une tempête de neige à 9h, 10h le soir, ben je suis désolée, mais tu vas travailler toute la nuit. Et ça implique aussi au niveau des travaux publics de repenser complètement les façons de faire et les façons de travailler. Parce que les nouvelles générations, ce n'est pas une question de paresse ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est qu'ils recherchent une qualité de vie. Et avec la pénurie de main-d'œuvre, ben le secteur privé leur permet davantage ça. Il y a une compétition entre les employeurs présentement où les potentiels employés peuvent choisir non pas juste en fonction du salaire, mais en fonction de la qualité de vie aussi qu'on leur offre. Alors c'est pas toujours évident, puis ça c'est pas juste à Trois-Rivières, c'est dans toutes les villes, c'est pas toujours évident d'aller recruter. Donc ça c'est un beau défi aussi.
Tout à fait. Paul, je veux qu'on parle de ta chronique de demain.
Oui.
Ça c'est à ne pas manquer parce que toi qui couvre l'actualité depuis quand même plusieurs années. Es-tu d'accord avec moi que le dossier d'Alain Piché, qui avait froidement assassiné à coups de hache ses parents en mars 2007, encore aujourd'hui, ça reste un des sujets les plus... je cherche le bon terme, mais bref, un des sujets qui a fait le plus jaser, même à travers le Québec, c'est marquant pour Trois-Rivières, Alain Piché. Et là, tu nous présentes demain une chronique là-dessus. La maison des Pichés a été vendue il y a 10 ans et ça fait l'objet de l'émission Résidence maudite, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, Résidence maudite qui est diffusée à CASA lundi prochain à 21h. Ça va être le dernier épisode qui est consacré à la maison de Gaétan Piché et Lucie Fournier, qui étaient les parents d'Alain Piché.
Oui.
Et j'ai eu la chance de participer aussi à cet enregistrement-là. L'animatrice Mélanie Bergeron, qui est une ancienne journaliste de TVA, m'a demandé de venir raconter l'histoire de ça. Et j'ai envie de te demander, Catherine, toi, est-ce que tu aurais envie d'acheter une maison dans laquelle il y a eu 2 meurtres?
Non. Je pourrais pas. Non, je pourrais pas.
Oui, c'est la question qu'a eu à se poser Diane Parent il y a 10 ans. Diane, qui est maintenant la résidente de cette maison-là. Et dans le cadre de l'émission et du tournage, j'ai pu la rencontrer aussi. J'ai fait une entrevue avec elle que je vous présente demain. Et c'est fascinant d'entendre cette femme-là parler parce qu'elle a été la première propriétaire de cette résidence-là, de la rue Milo, dans le secteur Cap-la-Madeleine, là, à la suite des événements. Évidemment, elle l'a acheté en 2011. Il a fallu que, on s'en rappelle, là, la succession a été longue à régler parce qu'il y avait un débat judiciaire à savoir si Alain Piché était digne d'hériter de ses parents ou pas. Et donc, ça s'est réglé en 2011 et la maison a été mise en vente. Et c'est Diane Parent qui l'a achetée. Et ce qu'elle raconte à travers ça, c'est de voir toute la fierté qu'elle a de dire, ben moi je vois pas dans cette maison-là la maison de l'horreur. Au contraire, moi je vois la maison qui m'a permis de réaliser mon rêve, celle d'acheter ma première maison à l'âge de 53 ans. Parce que j'ai toujours vécu en logement et j'ai ramassé mes sous, j'ai travaillé. C'est une personne qui vit seule, elle a pas de conjoint, pas d'enfant. Et donc, elle a ramassé ses sous toute sa vie pour s'acheter une maison. C'était la concrétisation de son rêve. Et elle dit, malgré les événements, malgré l'horreur, moi, j'ai réussi à voir au-delà de ça. J'ai réussi à comprendre qu'une maison n'est pas ce qu'elle a abrité. Une maison écrit l'histoire des gens qui l'habitent, finalement. Et c'est une personne, premièrement, c'est une personne extrêmement lumineuse, elle est drôle, elle a des éclats de rire, mais légendaire.
OK.
Et puis, elle est fascinante. Si vous pouvez regarder CASA lundi soir à 21h, franchement, c'est une très belle rencontre et c'est ce que je vous rapporte aussi là, dans le Nouvelliste demain, donc à lire.
OK, dis-moi juste avant de te laisser, puis je veux pas que tu nous dévoiles tout non plus, mais est-ce qu'elle a fait beaucoup de rénovations à l'intérieur de la maison pour justement qu'on... Tu sais, bon, puis comme elle te l'a dit, pour elle, c'est plus que cet événement tragique-là. Elle, c'est ses économies, puis c'est sa première maison. Mais est-ce qu'elle a eu besoin de faire des rénovations à l'intérieur?
Mon Dieu, oui, elle a eu besoin de faire des rénovations. Puis je te raconte juste une anecdote qui est majeure, à mon avis. Le crime qui a été commis par Alain Piché, bon, on s'en rappelle, il a décapité ses parents, il les a placés dans un congélateur, mais le moment où il a assassiné ses parents, c'était dans la salle de bain. Mm-hmm. Il les a assommés à coups de hache dans la baignoire. Et quand Diane Barrant a visité la maison, les traces de coups de hache étaient encore visibles dans la baignoire. Et elle est restée dans cette maison-là, dans cette salle de bain-là, pendant des années, avec les coups de hache. Mm. Pas parce que ça lui faisait plaisir, mais parce que la salle de bain était fonctionnelle et qu'elle devait attendre d'avoir les moyens de la rénover. Mais elle nous raconte ça avec une candeur et une joie de vivre incroyable. Pour elle, c'est un peu devenu comme anecdotique. Puis, ben, elle a réussi à passer par-dessus ça. Et finalement, on s'entend, les rénovations, elle en est extrêmement fière. Je pense que c'est la première pièce qu'elle m'a fait visiter dans toute sa maison.
Ah,
elle
dit,
regarde ma belle salle de bain.
Ah oui!
Oh oui! Elle est très, très fière de ça. Mais, donc, tu sais, ce qui est intéressant dans cette émission-là, c'est de remarquer à quel point un drame ou un événement peut affecter aussi la valeur d'une maison, la qualité d'une propriété.
Ouais.
Mais pour des gens comme Diane Parent, ben, c'est aussi des gens qui sont capables de voir au-delà de ça. Et elle, maintenant, ben, elle habite la maison de ses rêves et elle a l'intention d'y terminer ses jours.
Ah, wow! Mais écoute, tant mieux, Paul. Alors, donc, c'est ce que tu nous proposes demain dans ta chronique. Et en ce qui concerne l'émission Résidence maudite, c'est 21h lundi sur Kazan. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est le dernier épisode de la saison et il est consacré entièrement à l'histoire d'Alain Piché. Et j'y prends part également pour vous raconter cette histoire-là qui s'est passée en 2007, en mars 2007.
Bien, c'est clair qu'on va regarder ça. Merci, Paul. Bonne fin de semaine. On se reparle mardi.
Merci. Bon week-end.
OK, bye-bye. Paul Vermeau-Desroches. Oui, c'est fort intéressant. Hein? Ces deux chroniques, celle de ce matin dans un autre créneau, mais celle de demain, donc avec Diane Parent, ça nous amène une autre perspective sur toute cette histoire. Je salue Jean-François qui nous a texté dans les dernières minutes, revenait sur nos habitudes de vie en lien avec les changements climatiques. Il dit « J'habite dans un quartier familial et mes voisins ont tous à peu près dans la soixantaine et ce sont bien souvent eux qui arrosent leur asphalte pour l'avoir poussé. Dans ce temps-là, on se foutait de l'environnement et malheureusement, ils ont gardé ces mauvaises habitudes. Je pense qu'on devrait avoir une espèce de formation donnée par la ville afin d'essayer de faire changer ses comportements. Oui, formation, Jean-François, mais il faut nous-mêmes se prendre en charge. Je veux dire, regardez, là, on n'est plus là. Arrêtons d'avoir de mauvais comportements pour l'environnement, mais je vous rejoins à 200 % là-dessus.